talmudique. Il y a presque une vingtaine d'années, l'année qui précéda le 11 septembre, je fus invité dans un lycée de Mantes-la-Ville pour parler de littérature en cours de français à une classe de jeunes filles dont la plupart étaient à la fois issues de l'immigration et de confession musulmane. Ce sont les élèves elles-mêmes qui avaient choisi de m'inviter après la lecture d'un de mes ouvrages, Bibliothérapie, si mes souvenirs sont bons. Je sus par la suite que cette invitation n'était pas allée de soi et qu'un débat s'était engagé dans la classe entre une élève et une autre. « Quoi, tu vas inviter un feuge ?» disait l'une effarée, étonnée et presque en colère. Et l'autre de répondre, c'était la fille d'un imam. « Oui, c'est un philosophe et un rabbin, il a beaucoup de choses à nous apprendre. » Quelques années plus tard, en 2005, c'est une autre classe que leur professeur de français prépara et emmena à Bruxelles pour participer au premier congrès Imam Rabbin pour la paix, organisé par Alain Michel et la Fondation Homme de Parole. Je fus aussi présent. Deux événements qui transformèrent la vie de ces élèves, qui s'aperçurent avec étonnement et une grande joie que les préjugés peuvent se dépasser, que l'éducation reçue à la maison ou au sein d'une communauté peut être infléchie par l'étude, la rencontre et la bonne volonté. Je crois que je n'avais pas mesuré toute la dimension révolutionnaire que représentaient pour elles ces deux événements où ces élèves participèrent très activement. Je n'avais pas mesuré à quel point le judaïsme et les juifs et les rabbins étaient pour elles des points de crispation, de mise à distance, voire d'un rejet profond, sans doute plus inconscient que conscient, mais tout à fait réel. Elles écoutèrent, questionnèrent, dansèrent avec les rabbins qui dansaient et chantaient avec les imams, découvrirent le soufisme avec des soufis qui venaient de Jérusalem et dont elles s'étonnèrent qu'ils parlaient aussi bien l'hébreu que l'arabe et revinrent dans leur lycée et leur quartier avec une âme nouvelle, ambassadrice du fait qu'impossible n'est pas un mot définitif et décidèrent de transmettre et de faire connaître leur expérience. Mais surtout, dès la séance d'ouverture de ce congrès, en séance plénière, elles lurent un appel qu'elles avaient préparé et qu'elles adressaient aux centaines d'imams et de rabbins présents dans cette salle du Palais des Congrès et qui allaient débattre pendant plusieurs jours, un appel dont les dernières lignes résonnent encore dans ma mémoire. Nous avons confiance que ces textes, fondateurs de vos religions, mais aussi patrimoine précieux de l'humanité, peuvent transmettre la vie dans toute sa complexité. Nous avons confiance que, lus et enseignés par des hommes et des femmes responsables, ils peuvent permettre de reconnaître et d'accepter les différences comme des richesses possibles et non comme des dangers certains. Nous vous demandons ainsi de veiller à préserver l'intégrité morale et physique de tout être humain en garantissant une interprétation juste des textes dont vous êtes dépositaires. Nous vous demandons de ce fait de délivrer sans ambiguïté des enseignements conformes à cette justesse pour que ces textes fassent entendre avec vous, qui avez savoir et autorité, leurs paroles de sagesse et de paix. Entre-temps, l'histoire politique de ce début du XXIe siècle dans le monde entier n'a pas démenti l'urgence de s'interroger avec sérieux et de manière dépassionnée sur toutes ces questions et en particulier sur quelques-unes qui déjà à l'époque les bouleversaient particulièrement et qui dans le contexte de leur expérience si étonnante prenaient d'autant plus de force et les déroutaient singulièrement. Meir Baracher, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Je suis sûr que ce témoignage vous touche. Car c'est précisément à ces grandes questions, mais pas seulement, que vous vous attelez dans votre dernier livre, paru aux éditions Albin Michel, intitulé « Les Juifs dans le Coran » avec une préface de Mohammad Ali Amir Moedzi. Meir Baracher, vous êtes directeur du département de langue et littérature arabe à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous avez également dirigé l'Institut d'études asiatiques et africaines de l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Institut Ben Tzvi pour l'étude des communautés juives orientales et présidé aussi le comité professionnel pour l'enseignement de l'arabe du ministère israélien de l'éducation. Votre champ de recherche couvre le chiisme, y compris la religion noussérite alaouite, l'exégèse du Coran et les affinités religieuses entre le judaïsme et l'islam. Auteur de très nombreux articles importants et de plusieurs livres très remarqués, comment avez-vous rencontré cette question de la tension qui existe entre les juifs et les musulmans dans le corpus des textes coraniques et post-coraniques?
Bonjour Marc-Alain. Quand on connaît bien la langue arabe et on est juif et on commence à lire le Coran, et c'est exactement mon cas, un juif qui connaît l'arabe depuis mon adolescence et on rencontre le judaïsme partout. C'est-à-dire, les juifs et le judaïsme, ils sont tellement présents dans le texte coranique qu'il y a un désir naturel de bien comprendre quels sont ces juifs et quels sont ce judaïsme. Et d'un coup, on trouve beaucoup de similarités au judaïsme que nous connaissons, le judaïsme rabbinique qui est présenté dans le Talmud, dans le Midrash. Mais du coup, quand on lit de près, on voit qu'il y a quand même quelques différences dans ce judaïsme. Donc, on ne peut pas être indifférent vis-à-vis de cette richesse de judaïsme qui est présentée dans le Coran. On peut dire également sur le christianisme, mais le christianisme, c'est un élément, c'est une composante beaucoup plus marginale dans le Coran. Elle existe, elle est traitée, l'image de Jésus, le christianisme, et les doctrines chrétiennes, mais pas aussi fortement comme le judaïsme. Donc, c'est par curiosité de bien connaître, et bien de saisir, est-ce que je peux comprendre l'écart qu'il y a entre le judaïsme que je connais, le judaïsme que j'ai appris à la maison, à l'école. Et n'oublions pas, je suis un fils d'un rabbin, donc j'étais éduqué dans la connaissance des sources juives. Et puis, voir la réflexion de ces sources dans le Coran vous pousse vers une telle approfondissement de ce que vous voyez dans le Coran.
En tant que professeur d'islamologie, vous vous inscrivez aussi dans une longue lignée d'islamologues, juifs et non-juifs, qui se sont intéressés à cette question.
Tout à fait. C'est-à-dire, depuis le début de mes études, ça m'intéressait de savoir l'histoire, non seulement le sujet tel que je viens de le présenter, mais comment, en quelle étape de l'histoire de l'islamologie commencer les études, l'intérêt de la part de l'islamologue à ces questions. Et en étudiant le sujet, j'ai découvert que le grand mérite, et le pionnier dans ces études, c'est une figure très connue, c'est Abraham Geiger, qui est le fondateur, qui est mieux connu comme le fondateur du mouvement réformé dans le judaïsme et de l'Allemagne du 19e siècle. Lui a composé le livre qui est fondamental, qui reste toujours très important dans notre domaine. Et il a écrit en français et en allemand, c'était plus tard traduit en anglais. En allemand, le titre c'est « Was hat Muhammad auf den Judentum aufgenommen ?» Ce qui veut dire « Qu'est-ce que a pris Muhammad de judaïsme ?» Et donc il a fait un travail systématique. Il faut d'abord ajouter qu'il s'agit de quelqu'un qui était bien enraciné dans la connaissance des sources juives. Donc avec cette connaissance de la Bible, des Midrashim, le Talmud, il a eu tous les moyens pour bien saisir ce qu'il voit dans le Coran. Il a examiné systématiquement le Coran et mis l'accent et le point sur ses similitudes, mais aussi ses divergences. Plus tard viennent des grands chercheurs comme Goldzir, le grand islamologue d'origine hongroise. Et plus tard, nous avons Goitain, nous avons le professeur Meir Jacob Kister. Nous avons une série, une chaîne des grands islamologues. Et ce qui est commun à tous ces professeurs, qu'ils venaient de Beit HaMidrash. Ils venaient de la bien connaissance de Talmud. Parce que si on n'a pas ce bagage, on risque de lire le Coran et ne pas rendre compte que le Coran contient ces éléments. Quelqu'un qui vient avec une connaissance de l'arabe et une connaissance de l'islam, il lit le Coran, il ne peut pas s'apercevoir qu'il y a ces éléments dans le Coran. Mais une fois qu'on est chargé, et comme Monsieur Marc-Alain Wakni, comme quelqu'un qui connaît le judaïsme, avec cette connaissance, on voit énormément d'éléments qui demandent cette comparaison. Donc, Geiger a le mérite d'être le premier à le faire, de manière impressionnante.
Alors, dans ce travail de lecture du Coran, un livre qui aujourd'hui est lu à travers le monde, dans tous les pays où il y a des musulmans, et toutes les universités où il y a des chaires d'islamologie, c'est un texte qui émerge dans une histoire et une géographie qui ont toute leur importance pour recontextualiser le sens de ce texte. Ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre la structure du Coran et ce que vous appelez la césure invisible. Quelle est la géographie et l'histoire de ce Coran et la place des Juifs si présents dans cette histoire et cette géographie? Meir Bahasher.
Donc, parlant traditionnellement, le Coran a été né, et bon, il y a des débats entre l'islamologue, mais si, entre l'islamologue concernant la datation du Coran, mais, disons, l'opinion la plus acceptée, c'est que le Coran est né au 7e siècle dans la péninsule arabe. Il y a des autres qui pensent autrement, mais le consensus, c'est comme ça. Et ce texte a été né en Arabie, c'est-à-dire dans la partie qui s'appelle Hijaz, au nord-ouest de l'Arabie, là où apparaît l'islam au début du 7e siècle. Donc, dans cette région, la présence du judaïsme et des juifs était très très marquante, et tout particulièrement dans la partie nord de la péninsule, et dans la ville qui s'appelait Yathrib, et plus tard, après l'islam, elle s'appelait Madina, qui est l'abréviation de Madina Rasulullah, c'est-à-dire la ville du messager de Dieu. Mais elle s'appelait à l'époque, et mentionnée dans le Coran, dans les deux noms, Yathrib et Madina. Il y avait trois tribus que nous connaissons par les sources arabes et juives. Il y avait une présence juive dans toute cette région, à partir des régions de Médina jusqu'au nord, vers les frontières avec la Palestine. Lorsque Muhammad commence sa mission prophétique, il connaît ces Juifs. Il les connaît même avant la mission prophétique, il les connaît dans la Mecque, parce que les Juifs, comme les autres, venaient faire de marchandises, venaient faire de commerce à la Mecque. Il les rencontre. Et puis, ces entretiens avec eux, c'est la première étape de l'apprentissage des éléments juifs par les premiers musulmans, et en tête de qui Mohammed. Et plus tard, dans l'histoire de l'islam, après l'égir que Mohammed devait faire dans l'année 602, donc il était obligé de quitter la Mecque, il était persécuté à la Mecque et par ses concitoyens. Il va vers Médine, qui était, comme je viens de dire, un centre important des Juifs. Il était les dominants de ce territoire. Et puis, ses entretiens s'approfondissent et il commence à apprendre de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus détaillée le judaïsme.
Alors, qu'est-ce qui, à un certain moment, va faire naître ce que on pourrait appeler à tort l'antisémitisme du corpus coranique et de ses commentateurs? Comment expliquez-vous, alors que Mohammed apprend le judaïsme, pourquoi tout à coup ce rejet, voire cette tension, voire cette haine qu'on peut retrouver dans certains versets et certains hadiths? Meir Bahasher.
Avant tout, je précise, j'évite d'utiliser le terme antisémitisme quand il s'agit de Coran, parce que d'abord c'est un usage qui est anachronique, et je pense pas qu'on peut parler, à vrai dire, de antisémitisme dans le Coran. Il y a de haine vis-à-vis des Juifs, il y a des éléments et négative dans l'attitude vis-à-vis de judaïsme qui peut nourrir et une pensée antisémite, mais parlant de manière simple et simplifiée, l'antisémitisme sera faux et sera une propagande de ma connaissance. Je dis de plus que lorsque Mohammed arrive au Médine et il trouve les communautés juives, il essaye, la première étape, il essaye de mettre en terme avec ces juifs et avoir leur reconnaissance de sa cause, de sa nouvelle religion. Et tous ces essais ne marchent pas. C'est-à-dire après une période d'à peu près un an et demi d'après les sources arabes, et Muhammad change de tactique. Donc c'est de telle manière que nous expliquons la différence qu'il y a dans le texte coranique entre une attitude très positive vis-à-vis des Juifs, les considérant comme le peuple élu, c'est parmi eux que Dieu a envoyé des prophètes, et c'est eux qui l'a, c'est Dieu qui a guidé le peuple d'Israël à la terre promise. Et donc une vision est positive qu'on trouve dans, tout particulièrement dans les parties mécoises, c'est-à-dire ceux qui ont été révélés d'après la tradition islamique à la Mecque. Et puis une attitude négative qui commence pas tout de suite après l'émigration, un an et demi plus tard, il change, changement d'avis, et puis toute cette approche positive est remplacée par une approche négative, et les Juifs sont décrites de manière négative, et quelquefois j'aurais dit même ultra négative. Par exemple, si nous avons appris dans le Coran que les Juifs ont reçu une écriture divine, alors vient quelques versets de l'époque médinoise et disent, bah, c'est vrai, ils ont reçu une écriture divine, mais cette même écriture divine a été plus tard falsifiée. Et donc, elle n'est pas identique à la révélation qui a été donnée à Moïse au mont Sinaï. Et puis, les Juifs sont accusés d'assassination de prophètes qui ont été envoyés à eux. Les Juifs croient que Osaïr, que normalement nous identifions avec Ezra le scribe, comme fils de Dieu. Donc ils ne sont pas mieux que les chrétiens. Et d'ailleurs, le Coran, lorsqu'il les présente en égalité, en comparaison avec les chrétiens. C'est dans la sourate 9, verset 30, le Coran dit « Les Juifs ont dit que Osaïr est fils de Dieu, les chrétiens disent que le Messie est fils de Dieu, que Dieu combat contre les deux. » C'est par un désir de dire, vous les Juifs n'êtes pas mieux que les chrétiens, vous les deux vous n'êtes pas des vrais monothéistes. Les seuls monothéistes, c'est nous, les musulmans, mais cette facette est négative et développée, pas dans la première étape de l'islam, mais après la crise qui s'est passée entre Mohammed et les Juifs à Médine. Ça, c'est l'explication traditionnelle qui est donnée et qui est maintenue aussi par plusieurs chercheurs. Il y a d'autres visions de ce même problème.
C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces versets, avec ces commentaires qui, comme vous le dites, c'est un anachronisme de parler d'antisémitisme. Pourtant, il y a un rejet et des mots qui peuvent entraîner la haine jusqu'à aujourd'hui. Comment notre modernité, à la fois intellectuelle, spirituelle et sociale, peut se confronter et peut permettre de modifier, de transformer, de faire évoluer cette situation, Meir Baracher?
Je vous raconterai une chose qui s'est passée dans un de mes séminaires que j'ai enseigné il y a quelques années à Stockholm. J'ai donné une série de conférences sur le même sujet que nous traitons ici. Et j'étais frappé par une question qui était posée par un étudiant musulman. Et voilà, dans un de ces séminaires, il y a un étudiant d'Azerbaïdjan, musulman, chiite, qui me dit, concernant ces versets problématiques, qui sont... Et la grande partie de ces versets se trouve dans la sourate 9, qui est la sourate la plus polémique, la plus anti-juive et la plus anti-chrétienne. Et elle date de l'époque la plus tardive, donc lorsque la crise entre juifs et musulmans est arrivée à sa sommet. Donc il me dit, à mon avis, ça aurait été une excellente idée de supprimer cette sourate de la Coran. C'est un musulman qui le dit. Alors j'ai dit, monsieur, on ne supprime rien du Coran. Le Coran est canonisé. Et une fois qu'un texte devient sacré et canonisé, vous n'avez pas le droit de le toucher. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le texte. Il faut changer notre attitude vis-à-vis du texte. C'est-à-dire, et je trouve qu'une possibilité que moi, dans ma vie personnelle, j'essaie de la pratiquer, de la réaliser, c'est pas de changer le texte, mais c'est de le mettre en contexte. C'est-à-dire, même s'il y a des versets qui parlent, et ceux qui parlent négativement ou positivement des juifs et du judaïsme, il faut bien comprendre qu'ils parlent d'un contexte différent et c'est pas nécessaire de les actualiser. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, il y a des musulmans partout, dans toute l'époque, qui essaient de les actualiser. Mais en même temps, nous trouvons, dans toutes les époques, des musulmans qui savent actualiser les autres versets de manière de voir l'autre positivement. Donc c'est à nous, comme lecteurs d'un texte sacré, à créer une approche vis-à-vis de texte. C'est vrai non seulement concernant le Coran, mais aussi concernant la Bible et le Nouveau Testament. Je peux facilement, nous savons que nous pouvons trouver facilement des textes dans la Bible qui ne sont pas très positifs vis-à-vis l'autre. Donc, est-ce que nous devons les supprimer de textes de la Bible? Non. Ils restent là-bas, ils sont là-bas depuis 3000 ans, ils peuvent rester là-bas, mais nous pouvons créer une contextualisation différente des textes et avoir la sagesse de choisir les parties de textes qui peuvent servir à créer des ponts entre culture et civilisation et pas de la haine. Ça, c'est pour moi, c'est mon approche personnelle.
Alors c'est une approche personnelle qu'on retrouve dans le livre de manière formidable parce que c'est un livre complètement dépassionné ou en tout cas peut-être s'il y a une passion, c'est la passion de la recherche et de l'amour d'autrui. Mais on se rend compte avec cette relecture, cette contextualisation que vous appelez de vos voeux, qui est faite aussi par les islamologues, par les universitaires spécialistes. Mais certains versets sont très présents dans les consciences contemporaines. Oui. Et donc là, bien sûr, on peut recontextualiser, on peut enlever. Mais pourtant, il y a dans la grande majorité des lecteurs qui ne font pas ce travail. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux, Meir Baracher?
C'est très difficile d'éduquer tout le monde, mais on fait pas à pas. Et on fait des choses de manière graduelle. C'est très difficile de combattre contre cette propagande. C'est, lorsqu'on a une telle attitude, on peut à la limite montrer les autres côtés du Coran et montrer qu'il y a des grandes époques dans l'histoire des peuples juifs sous domination de l'islam que on n'a pas eu besoin d'évoquer ces versets. On a trouvé d'autres moyens pour montrer les parties qui parlent du coexistence entre juifs et musulmans. Après tout ça reste une approche personnelle. Je sais que on le cite souvent, mais le fait montre qu'on est conscient du danger de l'utiliser. Et il y a quand même une pensée qu'il faut et il faut peut-être trouver d'autres moyens d'exprimer les relations entre les deux religions.
Alors dans votre livre, justement, un très long chapitre est consacré à la Dhimma, oui. Cette loi ou ces lois qui ont permis pendant des siècles, en fait, une belle collaboration, je dirais, sociale, culturelle, politique entre les juifs et les musulmans. Vous voulez dire par là qu'il y a à la fois les textes que l'on vient d'évoquer qui ont un aspect négatif et on peut pas le nier, mais sur le terrain, la loi, les faits ont permis une autre perception de ces textes, en tout cas un autre vécu de ces textes.
Tout à fait. Quand on regarde les règles de Dimas, qu'on appelle la Pacte Omar et d'autres documents supplémentaires qui présentent les restrictions anti-juives et anti-chrétiens dans le Coran, il faut toujours éviter de généraliser. C'est-à-dire, on connaît le vide des juifs sous domination de l'islam dans laquelle on n'a pas pris à la lettre ces règles, et les conditions des juifs dans les pays musulmans étaient rien de rapport avec ces restrictions. Mais de l'autre côté, on a des moments dans l'histoire dans lesquels les juifs ont vécu dans des situations encore pires que les restrictions. Par exemple, si on prend les juifs d'Afrique du Nord sous domination des Almohades, les musulmans n'ont pas respecté eux-mêmes les règles et les persécutions vis-à-vis des juifs étaient énormes. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on étudie la situation des juifs sous domination de l'islam, il faut toujours la mettre en contexte. En quelle époque nous parlons et en quel territoire nous parlons. Et quelquefois, il existait ces restrictions, on ne les a pas appliquées. Quelquefois, on les appliquait plus que nécessaire, plus qui est demandé par ces restrictions mêmes.
Alors j'aime bien cette phrase de votre livre, « L'historien qui recherche la vérité n'a pas le droit aux généralisations, chaque lieu et chaque époque nécessite une recherche particulière ». Ça résume ce que vous venez de dire. Et j'ai l'impression, en vous ayant lu, que l'influence dont on vient de parler, c'est-à-dire ce mouvement de l'influence des juifs vers les musulmans, des textes de la Torah et du Talmud vers les textes coraniques et post-coraniques, vont aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et j'ai trouvé ça très très beau, c'est le chercheur que vous êtes et les autres qui ont eu cette attitude d'essayer de comprendre les sources juives dans le Coran, sont retournés aux textes juifs eux-mêmes, les ont presque redécouverts, ou quand ils ne les redécouvraient pas, ils les ont relus avec un autre regard, un regard neuf. Et j'ai été sensible, par exemple, à ce passage du Coran où vous évoquez Cain et Abel, Kabil et Abil en arabe. Je me suis dit que la recherche des sources juives était pour le chercheur un chemin intéressant pour réapprofondir sa propre tradition. Et je pense au midrash que vous rapportez concernant la mort d'Abel et les corbeaux, Meir Baracher.
Oui, c'est tout à fait. Et l'histoire de mort d'Abel et le corbeau. Et quand on le lit dans le Coran, d'abord on aperçoit, et il faut peut-être dire avant que souvent, et les histoires bibliques qui sont racontées, racontées de nouveau dans le Coran, ils ne sont pas vraiment des histoires bibliques purement bibliques. Souvent quand on lit des histoires soi-disant bibliques, on trouve des éléments post-bibliques qui sont intégrés dans leur histoire. Et l'histoire de Cain et Abel, nous le raconte tel qu'il est plus ou moins dans la Bible, sans mentionner le nom ni de Cain ni de Abel, parce que le Coran a tendance de ne pas mentionner les noms des figures, souvent dans les histoires, parce que ce qui est important, c'est le message moral et non vraiment les détails, pas les détails. Donc, un fils d'Adam tue l'autre, c'est comme ça que c'est présenté dans le Coran. Et puis, à la fin de cette histoire, il s'est dit que sachez que chacun qui tue une âme, c'est comme s'il a tué le monde entier, et chacun qui sauve une âme, c'est comme il a sauvé l'humanité tout entière. Quand on lit ce dire du Coran, on dit, nous ne connaissons pas cette partie dans la Bible. Ça ne fait pas partie de l'histoire de Cain et Abel, mais en lisant, et le Coran évoque ici et une partie qui se trouve dans le Midrash. Et souvent, le Coran nous découvre des Midrashim qui quelquefois sont oubliés par nous. On peut donner beaucoup d'exemples qui montrent que le Coran peut servir, dans quelquefois,
de conservatoire.
De conservatoire, de nous rappeler des choses qui ont été oubliées par la tradition juive. Il y a quelques cas frappants, et dans l'histoire de Joseph que je traite, dans l'histoire de David, et qui sont méconnus dans le Midrash, ou bien n'ont pas connu du tout. Ils étaient oubliés et puis ils sont conservés et préservés dans les sources arabes.
Merci Meir Baracher, merci infiniment pour cette conversation et tous ces éclairages passionnants. Je rappelle le titre de votre livre, Le Coran et les Juifs, un livre généreux dont on ressort heureux, plein d'une joie d'avoir compris des choses essentielles, un livre écrit dans un style clair, d'une objectivité communicable qui rend à tous ces textes du corpus coranique et post-coranique une chance d'être lus et appréciés en dehors de leur carcan idéologique, un petit livre qui est un grand livre et qui complète les efforts de tous ceux qui savent, comme le disait Camus à la sortie de la guerre en 45, que devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Merci pour ce livre que je crois véritablement devoir être lu par toute personne. Et si toutes les personnes du monde lisaient ce livre, je crois que le monde serait différent et meilleur. Merci encore, Meir Baracher.
Je vous remercie, Marc Alain. C'était une joie d'être votre invité dans ce programme. Je vous remercie.
Merci. C'était Talmudique, une émission de Marc Alain Waknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Alain Joubert. À la réalisation, Rafik Zénine. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.